Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutuc que je salue. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'épidémie de coronavirus inexorable en France, Emmanuel Macron l'a dite hier alors que 138 nouveaux cas ont été confirmés. Contamination à l'Assemblée, inquiétude sanitaire et contagion sur les marchés agricoles. Les importations françaises de lait, de porc et de vin sont à la traîne, vous l'entendrez.
À la une également, un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie.
Accord conclu entre les grands parrains du conflit Russie et Turquie après une escalade de violence dans la région d'Idlib, synonyme de catastrophe humanitaire pour 1 million de civils.
287 signalements de radicalisation islamiste d'agents publics sont remontés au ministre de l'Intérieur.
Christophe Castaner l'a expliqué hier, auditionné à l'Assemblée sur l'attaque du 3 octobre à la préfecture de police de Paris. La majorité de ces signalements a été classée sans suite. Raon, définitivement orphelin, le fils des âges farouches à la chevelure de feu, a perdu son dessinateur de père, André Chéré, est mort à l'âge de 82 ans. Son trait avait particulièrement marqué un autre dessinateur, Christophe Blain, vous l'entendrez à la fin de ce journal.
Oui, c'était le fils du Crao. Et dans une dizaine de minutes, Catherine, eh bien, ça sera la question du jour. La Cour de cassation met-elle fin au modèle économique d'Uber? On posera la question à Frédéric Fréry, il est professeur de stratégie à l'ESCP.
La France enregistre un 7e décès lié au nouveau coronavirus. 423 personnes ont été contaminées au total, soit 138 cas de plus qu'avant-hier. Toutes les régions de métropole sont désormais touchées, ainsi que la Martinique et la Guadeloupe. Le député Les Républicains Jean-Luc Retzer, élu du Haut-Rhin, a lui été hospitalisé dans un état jugé inquiétant par son entourage. Un salarié de la buvette de l'Assemblée nationale est également infecté. L'Italie devient, elle, ce matin, le deuxième foyer de mortalité du coronavirus, après la Chine, avec 148 personnes tuées, 3800 personnes contaminées en Italie. Inquiétude sanitaire lourde de conséquences pour les vins français qui restent dans les chais. Le lait en poudre n'est plus chargé dans les containers, tout comme le porc qui passe moins les frontières, Anne Lorchouin.
Les exportations de blé dur français à destination d'Italie ont chuté. Certains transporteurs refusent en effet de passer la frontière pour livrer la marchandise. D'autres productions, porcine notamment, reste stockée en attendant que la Chine, gros importateur de denrées agricoles françaises, décongestionne ses ports notamment. Mais outre les problèmes de logistique et les containers qui soit s'accumulent en attendant d'être déchargés, soit repartent à vide, c'est l'inquiétude mondiale qui a fait chuter les cours de plusieurs matières premières. Arthur Portier, consultant à Agritel, société d'analyse des marchés agricoles.
Le premier impact du coronavirus, c'est les craintes qu'on a sur le ralentissement de la croissance mondiale et notamment de la croissance chinoise. Et ce ralentissement a un impact direct sur les matières premières et les matières premières agricoles en général. Il y a des matières premières qui sont des dommages collatéraux et d'autres qui sont directement impactés en raison de moins de flux vers la Chine. Certains produits sont plus impactés que d'autres.
Parmi eux, l'huile de palme et dans son sillage, l'huile de colza qu'exportent en quantité les agriculteurs français, le sucre, la pomme de terre et bien sûr le lait, alors que les producteurs laitiers se remettent tout juste d'une crise des cours qui a duré longtemps. Mélanie Richard, économiste au CNIEL, l'interprofession laitière.
Ce ralentissement du commerce avec la Chine, il s'est traduit par une baisse des cours mondiaux des ingrédients laitiers. Entre 9 et 11% pour les poudres de lait et les matières grasses laitières depuis la fin du mois de janvier, compte tenu effectivement que la France exporte environ 40% de sa production laitière. Ces prix internationaux, ils ont un impact sur le prix du lait aux producteurs, sur cette fraction à peu près de la production.
Pour l'instant, rien de dramatique, soulignent les analystes, mais il ne faudrait pas que la situation s'éternise.
Aux États-Unis, à présent, le Congrès a débloqué 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus qui a tué 12 personnes aux États-Unis et contaminé 210 autres. La côte ouest, face à l'Asie, est particulièrement touchée. Un navire de croisière est tenu à distance des côtes de Californie où se trouve notre envoyé spécial Grégory Phillips.
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, contraint de décréter l'état d'urgence dans cet état de près de 40 millions d'habitants. L'un des foyers est localisé à bord du paquebot Grand Princess qui revenait d'une croisière de 2 semaines. Un homme de 71 ans est mort à bord et une vingtaine de cas suspects ont été recensés parmi les voyageurs. Le paquebot est donc bloqué au large de San Francisco avec ses 2400 passagers et 1100 membres d'équipage. Je ne veux pas rentrer chez moi, témoigne cette touriste. touriste. Je ne veux pas retourner voir ma famille, ni même rentrer dans ma ville. Si jamais j'ai ce virus sur moi, personne ne sait. Plus au nord, dans l'état de Washington, le géant Amazon a demandé à ses 50 000 salariés du site de Seattle de rester chez eux si possible et de travailler à distance au moins jusqu'à la fin du mois. Même chose chez Microsoft. Nous sommes en contact avec ces entreprises, dit la maire de Seattle, Jenny Durkan, sur MSNBC. On demande la même chose aux employés municipaux. À 4500 km de là, plus à l'est, c'est le vice-président Mike Pence qui est chargé de coordonner la lutte contre le coronavirus. Mais il prévenait hier soir, aujourd'hui nous n'avons pas assez de kits pour tester les cas suspects, d'autant plus que la demande va s'intensifier.
Grégory Phillips, coronavirus aux États-Unis et communication problématique de l'administration Trump. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Magnard après le journal de 7h30. L'industrie du film à son tour inquiète par le nouveau coronavirus. Après la sortie du nouveau James Bond qui a été repoussé de plus de 6 mois, les pertes financières des cinémas en Asie sont estimées ce matin à près de 2 milliards de dollars. La Chine, d'où est partie l'épidémie, recense de son côté 143 nouveaux cas, dont 16 dits d'importation. Pékin craint une reprise de l'épidémie à cause des étrangers sur son sol.
7h06 sur France Culture. Depuis minuit, Catherine, un cessez-le-feu est officiellement en vigueur à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.
Résultat de l'accord conclu hier à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine, qui soutient le régime de Bachar al-Assad, et le président turc Recep Tayyip Erdogan qui appuie lui certains rebelles. La Turquie a perdu d'ailleurs une soixantaine de soldats en moins d'un mois à Idlib. Un cessez-le-feu en Syrie aux airs de déjà-vu, Claude Bruyot.
Il aura fallu plus de 6 heures de discussion pour aboutir finalement au même montage que celui issu de l'accord de Sotchi en 2018 et rendu caduc par les combats de ces derniers mois. Il prévoit encore une zone de sécurité de part et d'autre, cette fois d'une autoroute stratégique dans la région d'Idlib, zone large seulement de 12 kilomètres et à l'intérieur de laquelle patrouilleront encore, à partir du 15 mars, des soldats turcs et russes associés comme en 2018 pour tenter de maintenir le cessez-le-feu. Pour le reste, Recep Erdogan et Vladimir Poutine ont mentionné tout de même la crise humanitaire qui a jeté sur les routes 1 million de réfugiés. Les deux présidents ont dit officiellement espérer éviter une aggravation de la situation grâce à la fin des combats. Mais chacun entend également poursuivre ses objectifs militaires, Erdogan affirmant que son armée répondra fortement à toute attaque des combattants de Damas, dont la Russie reste l'indéfectible parrain.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, a-t-il reçu 100 millions de dollars du roi d'Arabie Saoudite? C'est en tout cas ce que croient les enquêteurs suisses, ou la Suisse où Juan Carlos aurait ouvert un compte en banque au nom d'une fondation, selon la Tribune de Genève. Le parquet espagnol demande davantage d'informations à la justice helvétique et la gauche radicale en Espagne veut, elle, obtenir l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. De nouvelles manifestations importantes attendues au Chili en ce mois de mars, qui marque la rentrée scolaire et la rentrée sociale également, à moins de 2 mois aussi d'un référendum qui pourrait permettre de tirer une croix sur la Constitution héritée de la dictature de Pinochet. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Retour en France avec la 41e et dernière audition hier à l'Assemblée nationale de la commission d'enquête sur l'attaque de la préfecture de police de Paris. Le 3 octobre dernier, un agent de la direction du renseignement, Michael Harpon, avait tué au couteau 4 de ses collègues avant d'être abattu. Il était converti à l'islam, soupçonné de radicalisation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a détaillé hier les mesures prises depuis cette attaque pour éviter que cela ne se reproduise, Margot Delpierre.
Tous sont d'accord pour dire qu'il y avait une faille grave dans la détection des soupçons de radicalisation chez l'auteur de l'attaque, faisant référence notamment à ses propos après l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Il aurait justifié cette tuerie auprès d'un collègue, ce qui n'avait pas fait l'objet d'un signalement formel. Le rapporteur Florent Boudier s'interroge sur le manque de vigilance en interne.
Ces constats sont préoccupants parce que il nous semble qu'ils traduisent des dysfonctionnements à la fois individuels, mais qui sont aussi organisationnels et structurels.
Un avis partagé par le député François Pupponi.
Nous, on a trouvé que les hauts responsables de ce service y sont complètement déstabilisés. La directrice du service en particulier, je la trouve, mais touchée au plus profond d'elle-même. Et je ne suis pas sûr, mais ça, je fais une aparté, que de la laisser en poste lui rendre service. Pour l'avoir vue discuter avec elle, je pense que c'est une femme qui est en souffrance.
Alors faut-il supprimer le service de renseignement de la préfecture de police de Paris ou le rattacher à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure? Non pour le ministre qui insiste sur leur complémentarité.
Notre système s'appuie sur des femmes et des hommes qui sont comme ceux qui sont dans cette salle, avec des forces et des faiblesses. Et donc il faut les protéger avec un dispositif de signalement qui doit être renforcé, et c'est ce que nous avons fait. Mais faut-il bouleverser l'organisation d'aujourd'hui avec ces évolutions au regard d'événements qui ont lieu il y a 5 ans? Il faut faire attention à la proportionnalité et au risque de déstabilisation du service dans les propositions que nous allons faire.
Le rapport de la commission est attendu début avril.
Christophe Castaner qui a également déclaré donc que 287 signalements de radicalisation islamiste d'agents publics étaient parvenus à la DGSI depuis le 3 octobre dernier. La majorité des cas a été classée sans suite parce qu'un signalement n'est qu'une suspicion, explique Christophe Castaner. Il avait perdu ses parents biologiques et adoptifs, Rahan, définitivement orphelin. Le fils des âges farouches a perdu son dessinateur de père, André Chéré, est mort à l'âge de 82 ans. Lui qui avait donné sa chevelure de feu à son personnage de Cro-Magnon, pacifiste et libre penseur. Rahan, né dans Pif Gadget, personnage condamné à la solitude, passant de tribu en tribu. Vous vous en souvenez,
Guillaume? Oui, moi j'ai vu le gadget, la dent
du collier.
La dent du crapaud, c'est ça?
Oui,
voilà, je l'avais.
Sur le... Vous aviez votre collier?
Oui,
d'accord.
Absolument.
Rahan,
bon lecteur de Pif Gadget.
Rahan, bande dessinée parfois violente et sensuelle, le trait d'André Chéré a profondément marqué le dessinateur Christophe Blain. Il était interrogé par Toufik Hakem sur France Culture l'an dernier pour célébrer le 50e anniversaire de Rahan.
Quand on est enfant, on a envie de copier ses idoles. Et alors j'ai recopié du Lucky Luke, du tout ce que vous voulez. Rahan, c'était extrêmement difficile, parce que Chéret, il emploie la voix la plus dure, c'est-à-dire que tous ses personnages sont nus, quasiment. Ses planches sont d'une extraordinaire souplesse physique, énergie et fluidité, et effectivement, particulièrement Rahan, même sa chevelure, on l'appelle cheveux de feu. C'est donc très marquant, même d'un point de vue du vocabulaire, et très intelligent, parce qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose quand on est gamin. On se doute bien que ça ne raconte pas quelque chose qui peut correspondre à une vie réelle des hommes préhistoriques de cette époque-là, mais on a quand même l'impression d'apprendre quelque chose. C'est ça aussi qui donne un sentiment de réalité quand on est gamin. Et la violence est omniprésente, c'est-à-dire que quand ils se battent avec des animaux sauvages, quand ils tombent dans une rivière, il y a des scènes, je pense que tous les lecteurs et lectrices de Rahan peuvent se souvenir de ça, parce que ça marque énormément, c'est des images qui frappent et que vous gardez toute votre vie. C'est un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir pu parler de cette fascination avec ce monsieur pour lequel j'ai une grande admiration, qui n'est pas considéré comme un dessinateur majeur, mais qui, je crois que tous les lecteurs qui ont été lecteurs enfants ont été très très marqués par cette série et les a profondément touchés.
Le dessinateur Christophe Blain, interrogé par Toufik Hakem dans Le Réveil Culturel, qui célébrait l'an dernier le 50e anniversaire de Rahan. Je rappelle que le dessinateur André Chéré est mort à l'âge de 82 ans. Le Réveil Culturel de Toufik Hakem a retrouvé sur franceculture.fr, a retrouvé également un entretien avec Jean-François Lécureux, le fils du scénariste original de Rahan, qui avait repris le flambeau après le décès de son père, Roger Lécureux. Le temps de ce vendredi 6 mars, encore pluvieux, avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 110 km/h sur le littoral. Les températures sont comprises ce matin entre 0 et 6 degrés en général dans l'intérieur des terres, 3 à 8 près des côtes, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.